14h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du 20 mars 2014, Nathalie Barja, Washington, en compagnie de Chérubin Dorsil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Au sommaire, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en visite en Centrafrique. Par ailleurs, le Premier ministre de Transition met en garde contre tout amalgame dans l'identification des auteurs des violences.
Il est temps aujourd'hui que nous apprenions à dissocier la communauté musulmane de Séléka, que nous apprenons à dissocier la communauté chrétienne d'autres mouvements.
La Côte d'Ivoire annonce le transfèrement à la Cour pénale internationale de Charles Blé Goudé, un ancien dirigeant de la jeunesse pro-Gbagbo.
Le Conseil des ministres a marqué son accord à la demande d'arrestation et de remise de M. Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale.
C'était le ministre ivoirien de la Justice. Mis en examen par la justice française de Théodorine Obiang, fils du président de la Guinée équatoriale. Crise en Ukraine, sanctions réciproques entre Washington et Moscou. Finalement, une piste possible dans l'enquête sur la disparition du vol 370 de Malaysia Airlines. Des débris auraient été aperçus dans l'océan Indien. Et ne manquez pas donc, après tout cela, les sports et la musique de Roger Muntou en fin d'émission, mais avant le journal.
En Centrafrique, la situation sécuritaire est grave et urgente. Des personnes continuent d'être tuées quotidiennement, spécialement par des miliciens anti-Balaka. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui Nevi Pillay, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en mission dans le pays. Nicolas Pineau.
Oui, Nevi Pillay a fait cette mise au point aujourd'hui lors d'une conférence de presse au siège du bureau local des Nations Unies à Bangui. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU n'a pas mâché ses mots. Pour elle, malgré la présence des forces internationales, la situation reste extrêmement dangereuse et insoutenable. Vu l'escalade de la violence, André Nzapayeke, le Premier ministre de la Transition en Centrafrique, appelle à éviter tout amalgame dans la crise que traverse le pays.
Tout le monde est unanime sur cette question-là. Séléka a causé beaucoup de tort. Mais regardons Séléka comme étant un mouvement politique. Mais il est temps aujourd'hui que nous apprenons à dissocier la communauté musulmane de Séléka, que nous apprenons à dissocier la communauté chrétienne d'autres mouvements.
Sur le terrain, les violences se poursuivent. Des tirs à l'arme lourde et légère ont été entendus hier soir dans le quartier PK5. Et dans la matinée, le corps inerte d'un homme a été retrouvé non loin de la mosquée Ali Babolo. Autre information, un ressortissant mauritanien a succombé suite à une agression à l'arme blanche par des délinquants au centre-ville.
Le gouvernement français a annoncé la mort d'une quarantaine de djihadistes au Mali en quelques semaines. Dans une interview sur BFM TV, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a signalé la présence de plusieurs chefs parmi les militants tués par les soldats de l'opération Serval.
Depuis quelques semaines, nous avons mené des opérations qui ont permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes qui tentent de se regrouper. Et oui. Au Mali, c'est particulièrement significatif parce que c'était les...
Combien de terroristes qui avez-vous
une quarantaine. Et en particulier, on a pu... Neutraliser plusieurs chefs, dont en particulier Ouldama, qui est un chef historique de d'ACMI et qui était le beau-père
de
Mokhtar Belmokhtar. Mokhtar Belmokhtar, oui. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est celui qui a été à l'initiative des attentats d'In Amenas en Algérie. Neutraliser, oui. ça veut dire éliminer.
C'était Jean-Yves Le Drian interviewé sur BFM TV en France. Et vendredi dernier, les autorités maliennes avaient annoncé la mort du chef islamiste Omar Ould Hamada lors de frappes aériennes françaises dans le nord du Mali.
Côte d'Ivoire, le gouvernement donne son feu vert pour le transfèrement de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. La décision a été prise au cours d'un conseil des ministres présidé aujourd'hui par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Le reportage de Germaine Dri à Abidjan.
Il était un peu plus de 13h GMT quand Koulibaly Nguema Mamadou, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a annoncé l'accord du gouvernement pour le transfèrement de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale.
Le Conseil des ministres a marqué son accord à la demande d'arrestation et de remise de M. Charles Blégoudé à la Cour pénale internationale.
Au Front populaire ivoirien, le parti de Blégoudé, les dirigeants estiment que cette décision ne favorise pas la décrispation. Pascal Afinguessan, président du FPI.
Ce que nous pouvons dire, c'est que ce ne sont pas des actes qui participent de la réconciliation nationale. Mais nous attendons d'abord de voir. Ce ne sont pas des actes qui montrent que le pays avance sur la voie de la normalisation, de la sortie d'une forme de conflictualité. Mais nous attendons d'avoir tous les éléments avant de nous prononcer officiellement au niveau de la direction du FPI.
Germain Dri, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
Mis en examen ce jeudi à Paris d'un médecin rwandais installé en France, Charles Touagera. Il est accusé notamment de génocide et crimes contre l'humanité durant donc le génocide de 1994 au Rwanda qui a fait environ 800 000 morts. On écoute la réaction d'Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda.
C'est quelqu'un sur lequel j'ai personnellement enquêté dans mes déplacements au Rwanda. Il y a d'ailleurs un documentaire qui a été tourné en partie sur lui en 2009 et qui est passé sur la chaîne française de France 2 dans le cadre d'une émission qui s'appelait « La Grande Traque des tueurs parmi nous ». Et les témoignages que j'ai recueillis à cette époque-là sont des témoignages véritablement accablants pour Charles Touagera.
Il était à la tête de l'hôpital de Kibuye, une ville dans l'ouest du Rwanda qui a donc été le théâtre de massacres pendant le génocide. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche bien précisément?
Le crime le plus odieux qu'on lui reproche, c'est d'avoir fait exécuter la femme et les deux enfants d'un de ses collègues médecins, qui était d'ailleurs lui-même directeur de l'hôpital, puisque Touagera, je crois, s'est autoproclamé directeur pour prendre sa place. Donc, il les a fait déloger de la maison où ils habitaient et il les a fait exécuter par les miliciens. Et là, nous avons le témoignage à la fois des miliciens eux-mêmes qui ont fait le travail et d'un médecin européen qui était présent sur les lieux lors de ces massacres.
Quelle va être donc la prochaine procédure?
Alors, je ne suis pas sûr que le prochain procès soit le sien, puisque il existe actuellement en France deux présumés génocidaires qui sont en prison, dont l'un est en prison préventive depuis bientôt 4 ans. Je pense que ce sont ces deux dossiers-là qui vont être prioritaires pour les juges d'instruction. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que Charles Touagera, reste incarcéré en attendant son procès.
Alain Gauthier, le président du collectif des partis civils pour le Rwanda, il était joint à Paris par Camille Grosdidier.
Théodorin Obiang, le fils du président de la Guinée équatoriale et aussi vice-président du pays depuis 2010, a été mis en examen par la justice française. M. Obiang a été cité dans une affaire relative aux conditions d'acquisition de biens immobiliers et mobiliers en France par 3 chefs d'État africains, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Théodore Obiang et l'ancien président du Gabon, Feu Omar Bongo.
Et son avocat a fait valoir une immunité absolue dans le cadre de ses fonctions. Il a indiqué qu'un recours sera enclenché pour faire valoir l'immunité de son client.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après toutes sortes d'explications, peut-être enfin une piste sérieuse dans cette affaire de l'avion disparu. Les autorités australiennes ont annoncé que des images prises par un satellite australien montrent des débris non identifiés flottant à quelques 2500 km au sud de Perth, dans l'océan Indien. Bagassi Koura.
Ces débris pourraient être des restes de l'avion disparu depuis le 8 mars. Les objets en question ont été repérés dans une partie de l'océan qui, selon les autorités, mesurerait plusieurs milliers de mètres de profondeur. L'Australie a déployé des avions de recherche et des navires dans la région pour tenter de retrouver les débris et de les identifier avec plus de certitude. Au total, 4 avions dotés de radars maritimes ont été déployés par l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Bien que la météo dans la région soit relativement bonne, la visibilité n'est pas idéale. On fait valoir les autorités, ce qui pourrait entraver les recherches. Les autorités ont également averti que jusqu'à confirmation de la nature des débris, il n'est pas possible de dire s'il s'agit de l'appareil disparu. Le vol MH370 de la compagnie aérienne Malaysia Airlines a disparu avec 239 passagers à bord, une heure environ après avoir décollé de Kuala Lumpur à destination de Pékin.
Retour sur la crise ukrainienne. Le président américain Barack Obama a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie pour son annexion de la Crimée. Lionel Gaïma.
S'exprimant sur la pelouse de la Maison-Blanche, le président Obama a dit qu'il imposait des sanctions à plusieurs personnes impliquées dans l'annexion de la Crimée. Les États-Unis avaient déjà imposé des sanctions économiques et de limitation de voyage sur 21 personnes impliquées dans les actions du Kremlin contre l'Ukraine. M. Obama a déclaré que la Russie, à travers ses actions, ne fait que s'isoler davantage de la communauté internationale. Les principes de base qui régissent les nations en Europe et dans le monde doivent être respectés dans le XXIe siècle. Cela inclut le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale. L'idée que les pays ne peuvent pas simplement redessiner les frontières ou prendre une décision au détriment de leurs voisins, tout simplement parce qu'ils sont plus grands et plus puissants. Le président a également déclaré qu'il envisage d'élargir les sanctions à des secteurs de l'économie russe. M. Obama s'est dit profondément préoccupé par la situation en Crimée et fait savoir qu'il travaille avec des alliés européens pour formuler une réponse aux actions russes. Les forces russes ont pris le contrôle effectif de la Crimée il y a 2 semaines à la suite de l'éviction du président pro-russe de l'Ukraine, Viktor Yanukovych. Cela après 2 mois de protestations et de violences sporadiques.
La réaction ne s'est pas fait attendre à Moscou. Le gouvernement russe a annoncé des sanctions contre 9 membres du Congrès et du gouvernement américain. Parmi eux, le président de la Chambre basse, John Boehner, le leader démocrate du Sénat, Harry Reid, et le sénateur républicain, John McCain.
En Syrie, la télévision d'État rapporte que les forces du président Bachar al-Assad ont pris le contrôle du fameux krak des chevaliers à Kalatalon, une petite ville historique près de la frontière libanaise. Cette victoire est le fruit de combats intenses qui ont duré plusieurs jours. Elle élimine un autre point de ravitaillement des rebelles à partir du Liban. Et voilà pour le journal en direct à Washington. C'est Nathalie Barge en compagnie de Chérubin Dorcil. Vous écoutez donc Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique.
Alors Nathalie, des parlementaires du monde entier ont réclamé ce jeudi à l'issue de la 130e assemblée de l'UIP, l'Union interparlementaire à Genève, des mesures concertées pour vivre dans un monde sûr et pacifique.
Oui, et notamment dans une résolution sur la crise en République centrafricaine. Les membres de l'Union interparlementaire ont fermement condamné les violations des droits humains et ont souligné que les auteurs de ces actes devaient rendre des comptes. L'Union interparlementaire insiste aussi sur l'importance du dialogue pour entamer le processus de réconciliation. D'autre part, le Camerounais Martin Tchungong a été élu ce jeudi secrétaire général de l'Union interparlementaire.
Il est le premier Africain, il faut le dire, à accéder à ce poste depuis la création de l'organisation il y a 125 ans. Et je crois qu'il va remplacer Anders Johnson le 30 juin prochain. On l'écoute.
Je suis très ému parce que si on regarde la marge de ma victoire, j'ai reçu un mandat très fort pour poursuivre la réalisation des ambitions que j'ai exposées devant les membres de l'Union interparlementaire. Et je dois dire toute ma satisfaction étant le tout premier secrétaire général non européen de l'organisation.
Alors vous avez dit non européen, mais vous n'avez pas dit africain. Quel effet cela fait-il finalement d'être le premier africain à être le secrétaire général de l'Union interparlementaire ?
Je suis bien évidemment issu du continent africain, mais je représente les valeurs qui sont universelles, qui ne sont pas spécifiques à l'Afrique. Bien évidemment, j'ai eu le soutien de mon continent d'origine, mais étant secrétaire général, je vais m'attacher à m'occuper à toutes les préoccupations du monde parlementaire à travers les différentes régions. Ça fait un motif de fierté d'être africain, mais je souhaite devenir un secrétaire général universel.
Cela fait la fierté du Cameroun également?
Bien évidemment, parce que le Cameroun a, dans un premier temps, accepté de me détacher auprès de l'Union interparlementaire. Le pays a cru à mes capacités, donc c'est un motif de fierté pour nous et pour le Cameroun.
Vous êtes actuellement à Genève, vous traitez un certain nombre d'affaires. Le cas de la Centrafrique est assez complexe. Est-ce que vous êtes optimiste?
Moi, je suis par nature optimiste. Je pense qu'il y a des problèmes très urgents, d'abord sur le plan humanitaire. Dans un deuxième temps, il faut essayer de renforcer la gouvernance, la bonne gouvernance au pays, y compris la mise en place d'une institution parlementaire forte et efficace. Nous allons nous atteler à aider les autorités à mettre en place une constitution qui est plus démocratique, des institutions qui seront issues de cette constitution qui puissent répondre aux attentes des populations. C'est ce que nous avons fait au Burundi. Le Parlement a joué ce rôle, d'abord en mettant en place un espace de dialogue, mais également, ils ont mis en place une constitution de nature inclusive. Et cela est très important dans un climat de conflit où il faut rassurer tout le monde.
Voilà, c'était Martin Tchungong, le nouveau secrétaire général de l'Union interparlementaire. Tension dans les relations entre l'Afrique du Sud et le Rwanda. Cela depuis le meurtre d'un opposant rwandais vivant à Johannesburg dans les 3 mois qui ont suivi. Il y a eu un raid militaire, l'expulsion de plusieurs diplomates et des accusations de plus en plus acerbes. Timothée Donangmaï nous en dit plus.
On peut dire que ces derniers mois n'ont pas été trop bons pour les relations entre l'Afrique du Sud et le Rwanda. Deux grandes personnalités rwandaises qui avaient demandé l'asile en Afrique du Sud ont été attaquées. L'une, un ancien chef du renseignement, Patrick Karegeya, a été trouvé mort, étranglé le jour de l'an dans sa chambre d'hôtel à Johannesburg. Puis, au début du mois de mars, des hommes armés ont perpétré ce que le gouvernement sud-africain a qualifié d'atteinte à la vie de l'ancien patron du service d'espionnage rwandais, Faustin Nyamwasa. Certains analystes se demandent si l'Afrique du Sud peut vraiment protéger les demandeurs d'asile rwandais. Kofi Kwaku, qui enseigne à l'université du Witwatersrand à Johannesburg, dit qu'en réalité, l'Afrique du Sud est très faible dans sa façon de réagir aux événements sur son territoire. Certains violent son intégrité territoriale, assassinent d'autres gens. Donc, il y a un problème sérieux de sécurité, mais surtout d'insécurité. N'importe qui peut entrer dans le pays, faire comme bon lui semble et s'en aller. Cela envoie un mauvais message, a dit le professeur Kwaku. De son côté, Weston Shilao de l'Université de Johannesburg reste optimiste, notant l'importante contribution de Pretoria à la reconstruction du Rwanda.
I don't think they will fall out entirely. My take is that
je ne pense pas qu'ils vont se retrouver complètement dos à dos, dit-il. Il croit que l'Afrique du Sud et le Rwanda finiront par trouver un terrain d'entente, résoudre le problème et essayer de ramener la situation diplomatique au statu quo ante. La ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a posté plusieurs messages sur Twitter ce mois de mars, accusant l'Afrique du Sud de protéger des terroristes tout en expulsant des diplomates qui respectent la loi. Le gouvernement de Kigali dément toute allégation relative à une quelconque campagne contre ses opposants politiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Rwanda. Cependant, le président Paul Kagame ne cache pas ses sentiments vis-à-vis de ses anciens alliés passés aujourd'hui dans l'autre camp. « Vous ne pouvez pas trahir le Rwanda et ne pas en subir les conséquences », avait-il déclaré après l'assassinat de Patrick Karegeya.
Des représentants des peuples des forêts, peuples autochtones et communautés locales de tous les continents se sont retrouvés à Palangkaraya en Indonésie pour faire le point des menaces pesant sur leur environnement. En Afrique, tout comme en Amérique latine et en Asie, l'accaparement des terres menace la survie de ces populations, chiffrées à quelque 500 millions d'êtres humains. Dans leur déclaration de Palangkaraya sur la déforestation et les droits des peuples des forêts, les participants ont appelé à l'adoption de nombreuses mesures. Sophie Chow de l'ONG Forest People's Program en évoque quelques-unes.
Premièrement, les gouvernements devraient cesser de délivrer toute forme de titres, de permis et de concessions industrielles qui se superposent aux terres de ces peuples autochtones sans leur consentement libre, préalable et informé. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des mesures juridiques contraignantes pour que toute planification de gestion des territoires et des forêts, ainsi que de leur zonage, prenne pleinement en compte les droits et les systèmes d'utilisation des terres, des peuples des forêts, ainsi que les besoins de leurs générations futures.
En ce qui concerne le secteur privé, quelles sont les suggestions ?
Les suggestions provenant de notre atelier, organisé avec les membres de 8 pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, sont qu'il est impératif que les entreprises fournit des recours aux communautés autochtones pour les violations passées et qu'elle résout les conflits fonciers dans le plein respect de leurs droits. Il faut aussi que les entreprises établissent des mécanismes crédibles pour vérifier que les normes de certification et leur nouvelle politique de zéro déforestation et de zéro exploitation soient respectées et que les communautés puissent porter plainte et réformer ce système dans les cas où il n'y aurait pas conformité. Je pense qu'il est important de noter que le phénomène de la déforestation est autant environnemental que politique, social, économique et historique et que toutes ces facettes doivent être prises en compte et qu'il faut aussi aller au-delà d'une définition scientifique de ce qu'est une forêt, étant donné les nombreux peuples qui en font intégralement partie. Nous parlons d'environ 500 millions de personnes qui dépendent directement de la forêt et y vivent, dont 200 millions sont autochtones.
C'était Sophie Chow de l'ONG Forest People Program qui était jointe en Indonésie.
Et c'est aujourd'hui la journée internationale de la francophonie. En ce 20 mars, le secrétaire général de cette institution culturelle, Abdou Diouf, a lancé un message fort en direction de l'espace linguistique. Je cite « Célébrons les liens puissants que nous confère la langue, les valeurs, les espoirs et les ambitions que nous partageons. Célébrons une manière francophone de vivre ensemble, d'être au monde et de concevoir le monde », a déclaré Abdou Diouf. Pour l'occasion, j'ai demandé au professeur Diodo Ndiaye, ex-ministre sénégalaise et coordonnatrice du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, qu'est-ce que représentait une telle journée pour elle.
Une grande symbolique. Cela représente beaucoup pour moi en tant que francophone, en tant que militante de la francophonie depuis toujours et ayant été formée, bien entendu, dans le système francophone. Je ne dis pas français, mais bien francophone. Donc, c'est une journée qu'on a l'habitude de célébrer, chacun à sa manière. Mais cette année-ci, elle est particulière parce qu'elle coïncide avec la préparation du prochain sommet de la francophonie qui va avoir lieu au mois de novembre au Sénégal. Et vous savez que l'actuel secrétaire général de la francophonie quitte donc cette organisation après avoir terminé ses mandats électifs. Donc, c'est important pour nous, Sénégalaises et Sénégalais, et c'est pour nous en particulier qui vous parlons aujourd'hui. Vous savez qu'un réseau qui fédère beaucoup d'initiatives, l'ensemble des réseaux internationaux qui existent en francophonie et qui le veulent bien.
Vous êtes la coordonnatrice du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes. Mm-hmm. Alors, c'est intéressant. Est-ce que vous avez remarqué éventuellement, finalement, que les droits des femmes étaient un petit peu plus mieux, en tout cas mieux représentés, notamment dans les pays anglophones ?
C'est vrai que les pays anglophones ont une longueur d'avance sur les pays francophones dans l'application des textes, que ce soit les textes nationaux, les lois nationales qu'ils prennent, comme les lois supranationales telles que les différentes conventions que nos pays ont signées et ratifiées. Le problème qui a été identifié, c'est que l'application de ces lois dans les pays francophones est relativement lente, si elle existe. Des fois, elle n'existe absolument pas. Des fois aussi, cette application fait entrer des billets, tels que des réserves, les réserves que certains pays ont faites sur, par exemple, l'égalité effectivement homme-femme, le problème du code de la famille dans certains pays. Pour le Sénégal, par exemple, c'est deux articles, 151 et 152 du code de la famille que nous souhaiterions faire lever. Il s'agit de la puissance paternelle et non pas non seulement la puissance paternelle, mais que dans un autre article, le mari reste le chef de famille avec un certain nombre de contingences qui lient encore la femme à une très grande subordination.
On écoutait le professeur Diodio Ndiaye, coordonnatrice du réseau francophone pour l'égalité homme-femme. Le Monde aujourd'hui sur la voie de l'Amérique, place au sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie.
Alors on commence par du football, on joue en Europe, la Ligue Europa.
Et oui, quelques résultats qui sont déjà tombés. L'Enzimage Calcala qui fait match nul 0-0 avec l'AZ Alkmaar. Et puis le FC Valence qui s'impose 1-0 devant le Ludogorets. Victoria Plains contre Lyon, victoire 2-1. Le Benfica s'est incliné à domicile contre Tottenham 2-1. Et puis la Juventus de Turin est allée s'imposer sur la pelouse de Fiorentina. Quelques matchs à suivre tout à l'heure. Naples contre le FC Porto, Betis Séville, FC Séville et Salzbourg contre Basel.
La Ligue des Champions connaît désormais les 8 équipes qualifiées.
Manchester United s'est largement imposé face à l'Olympiakos du Pirée, 3-0 en 8e de finale hier. Défait à l'aller 2-0, les Red Devils ont rattrapé leur retard grâce à un triplé de Robin van Persie. Et puis dans l'autre match de la soirée, le Borussia Dortmund s'est incliné à domicile face au Zenit Saint-Pétersbourg 2-1. Mais cette défaite est sans conséquence pour les vice-champions d'Europe qui s'étaient imposés au match aller 4-2. Ces deux clubs rejoignent donc en quart de finale le Real de Madrid, Chelsea, l'Atlético Madrid, le Bayern de Munich, Paris et le FC Barcelone. Le tirage au sort aura lieu demain.
Et Nicolas, on parle gros sous à Paris.
Eh oui Nathalie, sortez votre carnet de chèques. Les joueurs du Paris Saint-Germain toucheront une prime d'1 million d'euros chacun en cas de victoire finale cette année en Ligue des Champions. C'est en tout cas ce qu'affirme le quotidien L'Équipe, ce qui serait inédit dans l'histoire du football.
Et enfin, on termine en NBA le championnat de basketball nord-américain.
Les Knicks de New York, présidés par Phil Jackson, ont dominé Indiana 92-86. Sans LeBron James touché au dos, Miami a chuté à Boston 101-96. Alors que San Antonio a dominé les Lakers 125-109, Chicago a battu Philadelphie 102-94 et reste collé aux Raptors de Toronto qui ont battu la Nouvelle-Orléans 107-120. Enfin, Brooklyn reste maître dans son antre en battant Charlotte 104-99.
Merci Nicolas pour cette page sportive.
Le monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, comme chaque soir, on se quitte en musique. Faisons place à Roger Muntu.
Oui, une grande nouvelle pour Kanye West et Kim Kardashian. Dans quelques instants, on l'écoute d'abord ici en featuring avec Nas, KRS-One et Rakim dans Classic.
Flyness, like a shyness, your highness is performing. Look how long the line is. It's what happened, you make it's timeless. It's what happened, these rappers is the pioneers. What do it take to be a legend like Nas is? I'm so novice, I'm so polished. I got a right to be a little bit snobbish. I did a little bit of college semesters. It took two like Rybase to let me figure out this wasn't my place. The beat slow till you listen to my pace. Cause I be killing shit, but that's evident. And y'all feeling it, but I expected it. If it's classic, it's gonna last forever. Then I'm everywhere you never been and better than I ever been.
Classic. Alors Kanye West et Kim Kardashian vont se marier le 24 mai 2014. Pour ce mariage, qui aura des allures d'événement planétaire, le couple le plus glamour du showbiz a vu les choses en grand et compte sur ses invités tout plus prestigieux les uns les autres pour rajouter une touche hollywoodienne à l'événement. Mais un des invités de marque de ce mariage hésite sérieusement à aller au mariage de Kim K. Cet invité n'est autre que Beyoncé. L'approche de Beyoncé s'est confiée au site américain Radar Online, disant que la diva ne porte pas Kim Kardashian dans son cœur. On espère tout de même que ce mariage ne va pas altérer les relations entre Jay-Z et Kanye West. When they do make the whip, you like your chips ain't right. By the time you could afford it, the car ain't imported. In the street timing, it's just iron. Cops keep firing in my environment. Leaving your slump, then they drive home. Far from the hood, brothers, they eager to jump on. I like to be the wall that they toast up on. I like to see them fall, guilty for doing wrong. I'm classic like the Air Ones, the hustler shoe. That's what I'm accustomed to, yeah. Classic. Live straight classic. I'm better than I ever been.
Time. I'm everywhere you never been and better than I ever been.
Classic.
Live straight classic.
I'm better than I ever been.
Time.
Of course, we have Blastmaster KRS-One. How many y'all got criminal minded?
Et ce n'est qu'un avant-goût parce que Roger Muntu sera en votre compagnie dans le RM Show tout à l'heure, à 20h, temps universel.
and we's a nation. Don't you wanna hear more KRS on your radio station? Instead of broadcasting how we smoke them trees, on the radio we need to hear more local MCs. Where you at? Come on, where you at? This is the difference between MC and the rap.
Et voilà, ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde. À la console, c'était Tian Wang. Vous pouvez nous écrire sur fr@voanews.com. Avec vous, c'était Nathalie Barge.
Et Chérubin Dorsil.
Bonne soirée à tous et à très bientôt.
Is y'all ready for 2007? It's now another drought.